diversité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Kapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Bien, nous parlons aujourd'hui de comment protéger les droits des peuples autochtones. Célébration, c'est jeudi 9 août 2018 de la Journée internationale des peuples autochtones. Cette journée vise à faire connaître et reconnaître la culture et les droits des peuples autochtones du monde. En RDC, cette catégorie de la population, notamment les Pygmées, n'a pas accès aux services sociaux de base tels que l'éducation et la santé. Alors comment garantir et protéger les droits des peuples autochtones en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec M. Kapupu Diwa. M. Kapupu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo. Alors aujourd'hui, c'est la célébration de la journée internationale des peuples autochtones. Alors, pouvez-vous nous dire, on parle souvent de peuples autochtones, mais de qui s'agit-il?
Merci beaucoup. Les peuples autochtones au niveau de la République démocratique du Congo sont les pygmées. Comme vous le savez très bien, la RDC est composée par 4 grands groupes tribaux. Donc il y a les Bantous, il y a les Nilotiques, il y a les Soudanais, mm-hmm. et il y a les Pygmées qui sont reconnus historiquement comme...
Qu'on appelle aussi les Toas.
Qu'on appelle les Batois.
Les
Bambouti. Voilà. Donc les Bambotés, les Batois, mm-hmm. les Babouloukou. Donc nous avons pris plus ou moins 72 ethnies. Avec des différentes appellations compte tenu de leur localisation et compte tenu de leur langue locale là-bas, là où ils habitent.
Voilà. Donc quand on parle des peuples autochtones, il s'agit de cette catégorie de la population.
Oui, donc le pygmée, il faut là insister parce que tout le monde dit qui est autochtone et qui n'est pas.
Qui n'est pas, oui.
Et dans le cadre de la RDC, c'est ainsi qu'il faut bien caractériser que ce sont les pygmées. Là, c'est l'identité et c'est ça même, je peux dire, la marque déposée de nous en tant que peuple autochtone en République démocratique du Congo.
Alors on dit souvent que les droits de ces personnes ne sont pas respectés. Ne sont pas protégés. Alors parlez-nous des violations de leurs droits que vous avez pu recenser.
Le droit est donc en général, je dirais que leurs droits fondamentaux sont bafoués. Donc depuis que la RDC, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, cette population n'a jamais juré ou participé à la gestion de la chose publique. Jusqu'à là, vous compreniez que, c'est-à-dire que accès à l'éducation, accès aux soins de santé primaires, même les femmes autochtones, par exemple, qui sont aussi marginalisées, malgré que les femmes sont marginalisées, les femmes autochtones sont marginalisées même par leurs corsaires, bantous, nilotiques, soudanaises. Et cela, vous trouvez.
Mais certains considèrent les pygmées comme des sous-hommes.
Certainement, ça c'était, vous voyez que, bon, pour ne pas entrer dans l'histoire de notre pays, pourquoi cette considération, c'est parce que avec les scientifiques, donc les ethnologues, les sociologues, les anthropologues qui sont arrivés pour la première fois dans le cuvette, qu'on appelle cuvette centrale dans la forêt équatoriale, ils ont essayé de considérer ce peuple-là comme un objet. Et ils ont fait ce que nous appelons une recherche passion, donc une recherche financière, pour voir, c'est ainsi qu'ils ont mystifié ce peuple-là. Et en les considérant comme des sous-hommes, quand vous lisez même votre histoire, et quelquefois qu'on voit aujourd'hui, par exemple, moi personnellement, M. Kapupu Diwa, qui vous parlait à cette heure-ci, on dit non, il n'est pas pygmé parce que je n'ai pas de cheveux crépis, parce que je m'habille en costume, parce que j'ai étudié et tout ça. Alors, on a essayé de mystifier ce peuple pour dire que tout ce qui est sale, tout ce qui est en lambeaux, Et c'est ça même, vous, quelquefois, je pense que vos parents ou vos arrière-parents disaient toujours, regarde, il réfléchit comme un pygmée. Vous voyez jusqu'à cette stigmatisation-là, comment cette marginalisation devient comme une culture. Et c'est pour ça que certaines personnes disent que, quand vous lisez, ils disent des sous-hommes, pourquoi, avec donc les qualificatifs qu'on a donnés à ce peuple, soi-disant que les bras sont longs par rapport aux jambes et tout ça, vous voyez tout ça.
Tout ça, c'est les colonisateurs qui a amené.
Oui, y compris même nos voisins, donc les autres trois tribus.
Oui.
Donc c'était pour écarter le fait que le peuple autochtone pygmée étant que le premier habitant du pays, si on le mettait au premier plan, vous voyez, donc les autres devraient subir ce que nous subissons aujourd'hui. Donc l'écartement là, la marginalisation, mais c'est ainsi que ce n'est pas seulement les colonisateurs, même nos voisins. Malgré que, par exemple, au niveau de l'Est, c'est nous qui investissons le chef coutumier traditionnel.
Mais vous, les Moami.
Les Moami. Mais vous trouverez que on n'a pas même la reconnaissance qu'on vous venait de dire. Même notre petit village n'est pas connu comme village. On appelle ça campement. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses de
dénigrement. Certains disent que les pygmées n'aiment pas s'associer aux autres. Ils préfèrent rester dans la forêt, rester dans leur coin, et voilà. Donc c'est une sorte d'auto-exclusion.
Non, c'est ça aussi, c'est ça mon regret, parce que vous dites que, voilà, vous venez de prononcer vraiment un terme qui me concerne très bien. Et c'est qu'on vous a enseigné que les peuples autochtones, donc les pygmées, vivent dans la forêt. Aujourd'hui, même dans cette forêt-là, que vous disiez que nous vivons, nous ne vivons plus dans ces forêts maintenant. Vous voyez, ça devient, donc nous devenons comme le plus grand réfugié, alors que nous sommes le premier citoyen. Mais on devient dans notre propre pays comme de réfugiés, parce que aucun peuple autochtone, par exemple, dans sa petite parcelle-là, qui est reconnue comme avec un titre des propriétés, vous voyez. Nos villages ne sont pas reconnus, nos chefs même traditionnels ne sont pas reconnus comme chefs de groupement comme tant d'autres. Vous trouverez qu'on importe même un chef de groupement pour venir dominer dans notre groupement. Vous voyez, tout ça, c'est ça que vraiment la marginalisation est totale et l'exclusion et la déconsidération, comme vous venez de le dire, compte tenu de cela, on considère maintenant comme des sous-hommes. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui est fait pour arriver à protéger les droits, à reconnaître et à protéger les droits des peuples autochtones? Qu'est-ce qui y est déjà fait et qu'est-ce qui doit encore être fait?
Bon, je vais placer ça à deux niveaux, pour ne pas dire 3, 4 et 5. À deux niveaux, c'est-à-dire au niveau international. Au niveau international, la République démocratique du Congo a adopté, donc, le document, a validé les documents qu'on appelle la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. C'était le 13 septembre 2007. Donc aujourd'hui, ça fait 11 ans. Et au niveau international toujours, la RDC a ratifié et signé plusieurs documents que je peux énumérer deux ou trois seulement, pour ne pas et puis chuter au niveau national. La RDC a ratifié la Convention sur la biodiversité. La RDC, dont l'article 8J, qui stipule très bien sur la reconnaissance des peuples autochtones et les savoirs des peuples autochtones. La RDC, pour récemment, il vient de signer l'accord de Paris. Et dans le préambule, on parle des peuples autochtones. La RDC a signé la Charte africaine des droits de l'homme, dont là, et des peuples, voilà. Et là, tout ça, ce sont des instruments internationaux que la RDC s'est engagée au niveau international. Malheureusement, au niveau national, aucun texte légal, tel que la Constitution et d'autres lois, qui ne reconnaissent pas
les
droits des peuples autochtones.
Même dans la Constitution, il n'y a aucune disposition.
Il n'y a aucune disposition. C'est ainsi que, étant qu'avec tout ce que nous connaissons, on s'attelle à l'article 51. Là, on parle des groupes vulnérables, des groupes minorités. Et nous, mais les mots autochtones, pour nous, c'est ça le souci. Pour nous sécuriser, il fallait que ces mots-là ressortent. Parce que quand on parle des minorités, qui est minorité, qui ne l'est pas en RDC? Il y a même des tribus quand vous voyez le, aujourd'hui, je vous dis, et au niveau de la RDC, nous sommes à peu près 1 million. Donc ça fait 1% de la population congolaise. Et là, mais il y a des tribus en RDC, des ethnies, qui ne sont pas même 5 000. Mais ils sont, ils participent à la gestion
de
la chose publique. Et tout ça, vous voyez comment se fait-il de la présidence jusqu'au niveau de la localité. Nous sommes nulle part. Alors que nous sommes des citoyens, comme je dis, les Congolais avec ses majuscules.
Alors dites-nous, monsieur Kapoupou, quelles sont les avancées déjà enregistrées? Vous avez cité plusieurs instruments au niveau international qui ont été adoptés et qui reconnaissent les droits des peuples autochtones. Mais au niveau national, dites-nous quelles sont les avancées déjà enregistrées?
Oui, au niveau national, il y a maintenant, il y a quelques avancées significatives. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes impliqués dans toutes les réformes. Donc, dans la réforme foncière qui est en cours, dans la réforme de l'aménagement du territoire qui est en cours, il y a d'autres arrêtés, tels que les arrêtés sur, par exemple, je prends le fonds fiduciaire au CAPI, dont il y a une place réservée, il y a l'arrêté qui désigne dans la constitution du comité, on doit avoir des administrateurs, une place réservée pour les peuples autochtones. Par exemple, aujourd'hui, je suis ici à la radio au CAPI aujourd'hui parce que on est arrivé maintenant à identifier qu'en République démocratique du Congo, il y a les peuples autochtones. Tout ça, ce sont des avancées significatives que nous frisons pour cette reconnaissance légale comme citoyen à part entière. C'est ça notre préoccupation.
D'accord. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne. Nous parlons aujourd'hui de la protection des droits des peuples autochtones. Zakissa nous appelle de Tchoumia. Clément Daye est à Kananga. Zakissa, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, souvent, ma préoccupation, c'est concernant les pygmées. Souvent, je constate que les pygmées sont utilisés par des personnes qui vivent à l'extérieur du forêt. Parce que, je dis avec mon père, on a essayé d'ouvrir même une école à commande. C'est aussi un pygmée qui a éduqué les pygmées sur base de l'éducation et l'enseignement. Mais lorsque le financement est arrivé, les gens qui étaient là, au-dessus de nous, qui avaient chapeauté l'ONG, ont mangé tout financement. Maintenant, à partir de là, c'est difficile de continuer d'enseigner les pygmées, alors que les enseignants aussi ont besoin même de prendre quelque chose. Mais les pygmées ont le courage d'étudier, sauf seulement ce que j'ai constaté, ce sont les ONG qui arrivent, c'est eux qui ne prennent pas au sérieux vraiment l'organisation pour enseigner les pygmées. Parce que si on commence à les enseigner à bas âge, tu vas trouver que les pygmées ont même le courage. Peut-être ceux qui sont déjà devenus vieux et ils n'ont pas de courage pour enseigner. Mais les enfants vraiment ont du courage pour enseigner. Et si on prend cette décision de les enseigner à bas âge, arriver à 5 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, après 12 ans, on va avoir aussi des pygmées qui sont des intellectuels, même des docteurs, même des enseignants.
D'accord. Est-ce que cette école à commande existe toujours?
Ça n'existe plus. Ma petite sœur Rebecca Faïd a enseigné là-bas. Elle a même laissé d'enseigner avec d'autres qui sont rentrés, même qui sont rentrés à Bougna, le directeur de l'école à Bougna là-bas. L'école fonctionne encore plus, je peux dire. Ça ne fonctionne plus. Mais les pygmées venaient vraiment au bon nombre, vraiment plus même de 50 enfants pygmées qui étudiaient, même ceux qui étaient des parents. On les aidait avec nos financements propres, les donner à manger, de nourrir, des habits, parce qu'ils aiment souvent des choses matérielles pour les motiver davantage.
D'accord, merci Zakissa de Tchoumia. Clément Daye, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Nkachama, bonjour aussi à l'équipe de la Radio Kapi.
On vous écoute, Clément.
Il est vrai que selon le sujet soulevé, c'est un sujet très intéressant. Je dis, ça me fait vraiment trop de regrets du fait que le peuple autochtone, autrement appelé les pygmées, de son part doit avoir, de sa part plutôt, doit avoir vraiment certaines règles et tous les droits qu'il fallait respecter. Mais ce que moi-même j'ai constaté, c'est quoi? Voyez-vous qu'avec l'assainissement chez le peuple autochtone, normalement il n'y a pas d'eau, il n'y a pas les centres normalement équipés qui peuvent normalement répondre correctement à la santé plutôt. Et autre ça, l'état de route, parfois les études, ainsi de suite. ça pose des problèmes. Normalement, ce que moi je remarque, c'est quoi? C'est un peuple totalement abandonné. Il y a certains droits qu'eux-mêmes parlent du jour au jour, soi-disant, il a fallu que tel ou tel soit respecté, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas respecté. Alors, c'est la raison pour laquelle je voulais juste demander à notre invité quels sont les droits de sa part que lui connaît ou non, c'est déjà respecté envers les peuples autochtones, puisque jusqu'à maintenant, c'est un peuple vraiment minimisé. C'est un peuple vraiment moins valeureux. C'est un peuple vraiment négligé dans tous les domaines possibles. Pour les écoles, soi-disant, ils ne se donnent pas aux études. C'est un peuple qui se donne seulement à la pêche, et aussi l'élevage et autres ça. C'est un peuple vraiment qui n'arrive pas à se comporter de la façon dont se comportent les gens. Il ne s'habille pas correctement. Il y a beaucoup de choses qu'on dit envers les peuples autochtones. Alors, c'est pourquoi j'aimerais demander à l'invité quels sont les droits qu'on a déjà respectés. Puisque je l'ai entendu parler, non, il y a tel ou tel qu'on est en train de faire, ce qui est en cours d'être fait. Bon, des histoires pareilles. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'ai plusieurs fois contacté les peuples autochtones. Ils se disent non, ils sont totalement abandonnés. Alors que l'invité nous dise combien de projets sont installés pour le peuple autochtone, sont proposés déjà pour le peuple autochtone. Voilà ce que je voulais juste savoir de sa part. Merci, bonjour chez vous.
Bien, merci Jérémy. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jérémy. Et bonjour également à l'invité avec vous. Sur le plateau. Je voudrais un peu juste. Je suis d'abord très ravi de la pertinence de ce sujet, mais à mon humble avis, je pense que vous et moi avons tous appris au sujet des plus autochtones. Nous faisons allusion à Dom Panir dans l'histoire, nous faisons Dom Panir. Mais l'histoire nous rappelle, nous parle de ce sujet. Mais personne ne peut s'en passer, mais il se fait malheureusement que ce peuple soit marginalisé dans la structure sociale, au jour d'aujourd'hui. Mmh. Et cela à tous les niveaux possibles. Je me demande, est-ce les complexes d'infériorité dans les chefs de ce dernier? Est-ce l'ère des desiderata ont-ils rencontré gain de cause à l'endroit de nos autorités? À mon humble avis, j'ai oui entendu, je pense qu'il y a un petit moment, ils ont initié leur requête, leur problème au sein du parlement, mais jusque-là, aucune de leurs revendications n'a rencontré des solutions adéquates. Je ne sais pas. Ils sont marginalisés. Pourquoi? Est-ce que les autorités ne peuvent pas aussi, parce qu'ils sont des gens comme nous autres, est-ce qu'on ne peut pas aussi, sur le plan, dans la société ou dans la vie sociale, les intégrer et afin de créer cette émulation? Et ça peut aussi faire partir cette marginalisation. Parce que je me rends compte que, je ne sais pas, c'est dans leur chef où il y a cette déconsidération, où ils ne veulent pas s'intégrer, ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que je vois que nous avons étudié dans l'histoire, il y a des lurettes. Mais ça fait autant d'années. Mais jusqu'à quand ce peuple doit vraiment s'intégrer? Jusqu'à quand cette population doit-elle vraiment prendre position pour être intégrée? Pourquoi pas trouver un ministre de ce type?
D'accord, merci Jérémy.
Un gouverneur,
oui.
Peut-être ça peut être...
D'accord, merci Jérémy de Lubumbashi. Nous parlons de la protection des droits des peuples autochtones avec M. Kapupu Diwa. Il est le président de la Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo. Vous avez suivi les différentes préoccupations. Zakissa nous parle même d'une école qui a été ouverte à Kakumanda pour les pygmées, mais l'ONG qui supervisait le projet avait détourné les fonds et l'école a dû fermer. Alors, quelqu'un d'autre veut savoir quels sont les projets, par exemple, qui marchent pour ces peuples, particulièrement dans les domaines, commençons d'abord dans les domaines de l'éducation, monsieur Kapupu.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants pygmées ont accès à l'éducation?
C'est là que même la motivation de créer des organisations purement autochtones, c'est une occupation. C'est ça notre champ de bataille. Pourquoi nous nous sommes organisés maintenant? C'est pour répondre à tous ces questionnaires des concitoyens. C'est-à-dire quoi? À Komanda, je suis passé par là. Il y avait même à Mambasa toujours de telles choses. Parce que ce qu'il vient de dire là est vrai. Et c'est là que mon champ de bataille. C'est-à-dire le fait de l'ignorance des peuples autochtones, que, comme Clément vient de le dire, de cette complexe d'infériorité des peuples autochtones. Les gens utilisent maintenant les peuples autochtones comme leur vache fêtière pour avoir de l'argent. Le peuple autochtone et toutes les organisations, si vous partez au ministère du Plan, vous partez au ministère de la Justice, vous trouverez plusieurs milliers et des milliers des organisations qui militent en faveur des peuples autochtones. Malheureusement,
sur le terrain, on ne voit rien.
Parce que quand on fait des projets dans des bureaux climatisés, tout ça, et toujours, je pense que vous serez maire pour avec moi, vous serez d'accord avec moi, toujours on montre des photos de pygmées toujours torse nu, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, toujours pieds nus. Alors, si c'est comme ça, c'est-à-dire je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit, et c'est ça qu'il faut, nous, le peuple autochtone, nous commençons à militer pour mettre, pour barrer cette route.
Combien d'écoles ont été construites aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous dis, par exemple, cette école-là n'existe plus. Même l'école qui était à Mambasa n'existe plus. Je peux vous citer beaucoup d'écoles là où je passais qui n'existent même plus. C'est-à-dire que c'était tout simplement pour avoir de l'argent. Quand l'argent est rentré, c'est fini. Et c'est ainsi que on a décrété cette journée, le 9 août, comme journée internationale des peuples autochtones au niveau mondial, compte tenu de nos revendications, et c'est pour essayer vraiment qu'on puisse dénoncer tout ce que les amis viennent de m'appuyer, ce que je vous avais dit.
Mais tant que les enfants autochtones n'auront pas accès à l'éducation, l'ignorance, il y aura toujours des problèmes.
C'est ça. Nous, parce que ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous allons maintenant à la contre de ce que les amis proposent. C'est-à-dire quoi? Nous devons se prendre d'abord en charge, nous comme autochtones. Pour le Bantou qui fait, moi par exemple, j'ai étudié dans des conditions, très mauvaises conditions, parce qu'on m'a considéré pour étudier comme un cochon d'Inde expérimentation pour voir ce qu'on a écrit dans le livre d'histoire qu'un pygmé a un conscient intellectuel de 40. Donc, 40, le plus doué, il a un conscient intellectuel de 60. Donc, on est imbécile et idiot. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver à faire troisième année, primaire. Parce que quand on est, donc le conscient intellectuel moyen d'une personne normale, ça commence à 100. Vous voyez.
Ça, c'est des préjugés.
Oui, ce sont des préjugés.
Tout
juste, même ce qu'il vient de dire là, ce sont des préjugés. Et c'est pour cela que nous...
Et vous dites que vous avez étudié dans des conditions difficiles.
Difficile, pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne me considérait pas comme un « je peux être avec les autres ». Donc, les voisins, donc...
C'était dans une école pour enfants pygmées ou bien...
Il n'existait pas jusqu'à présent, même dans notre philosophie.
Et c'était où, là?
C'était dans le sud Kivu, dans le territoire de Mwenga. Et c'est là, là où il y a un grand chef, des chefs donc vers classique à là-bas. Donc, avec ça, vous voyez comment les choses ont évolué. Donc, comme il a dit.
Mais vous avez quand même pu, malgré ces préjugés, vous avez étudié jusqu'à terminer.
Parmi les causes, aujourd'hui, si les peuples autochtones n'étudient pas, c'est ce mépris-là, pour dire sous-homme. Et quand nous sommes maintenant avec eux, nous sommes plus intelligents. Parce qu'on ne connaît pas, vous avez quel âge? Quand vous partez, par exemple, à l'école, vous avez déjà 10 ans ou 11 ans, ou 12 ans, en première. Comment vous allez échouer des choses pareilles? Vous voyez. Et là, le fait toujours de vous injurier comme sous-homme... allez, toi, pygmé, tout ça, tous les jours, avec tous ces injures-là, vous êtes obligés, c'est parmi les causes, nous abandonnons.
Mais vous avez tenu bon, malgré ces
on a tenu, mais il n'y a pas de règles sans exception. Et aujourd'hui, maintenant, par exemple, je peux vous dire, tous mes directeurs provinciaux sont des licenciés. Aujourd'hui, tous les points focaux de notre organisation sont des gradués, des licenciés. Alors, c'est-à-dire que les parents, maintenant autochtones, ont pris conscience que ce n'est pas l'État, ce n'est pas les gens pour nous secouer pour aller à l'école, mais ça doit venir de nous. Et nous, c'est ça que nous faisons maintenant, la sensibilisation, et la conscientisation, parce que la conscientisation est plus grande que la sensibilisation. Pour que tous les parents, que si aujourd'hui, il a dit par exemple pour nous nommer ministre, mais si tout le monde n'a pas un badge, parce que nous sommes des pygmées qu'on va nous donner un gâteau gratuit. La réponse est dit non. Mmh. Et nous sommes en train maintenant de se battre pour qu'il y ait, qu'on soit aussi compétitif Et c'est ce que les gens ignorent, comme mon frère a dit. Voilà, c'est un peu ça que, comme des avancées, comme je peux dire.
J'aimerais bien à vous le temps d'accueillir d'autres auditeurs, Gaston de Kinshasa, Charles Kissimba de Lubumbashi et Yannick de Manono. Comment protéger les droits des peuples autochtones? Gaston, bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Bon, je dis, j'allais d'abord savoir la différence qui existe entre un national, si je veux dire, et un autochtone, ou soit un originaire et un autochtone. Si l'invité pouvait nous expliquer d'abord avant que j'enchaîne, parce que il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La différence entre originaire et autochtone.
Oui, allez-y, posez les autres questions.
Bon, je pourrais directement avancer, mais moi j'allais dire ceci. En réalité, j'ai pu comprendre que quand vous parlez de peuples autochtones, je ne sais pas si Dieu les a créés ici sur notre territoire ou par rapport à l'histoire, ils sont provenus de quelque part. Mais au moins, quand on parle des autochtones, peut-être, à mon avis, on se limite à la date où l'État indépendant du Congo a été créé. Donc, l'État, on a, le moment où on avait subisé l'Afrique, et puis, à ce moment-là, je ne sais pas, mais les histoires, peut-être, au moment où les Blancs ont intégré ce territoire, ils n'ont trouvé que par rapport à certains territoires des peuples qui ne provenaient de nulle part, qu'on appelle des autochtones, qui sont la plupart des cas de pygmées. Alors, si c'est ça le cas, à mon avis, nous tous nous sommes provenus de quelque part. C'est qu'on est originaire. Originaire, par exemple, par rapport à la loi sur la nationalité actuelle, c'est lorsque votre tribu, une sorte de toutes les nationalités qui se trouvaient sur le sol congolais en 1960, lorsque le Congo est devenu indépendant. Mais il y a des lois qui ont précédé, qui ont parlé de 1885. Alors, je voulais un peu qu'on puisse préciser les choses, parce que même quand vous parlez de ces pygmées-là, qui sont aujourd'hui dans des coins bien. Si on voit aussi des soucis, on voit tout ce monde-là qui n'ont pas la morphologie que nous, la plupart qui sont venus à ça avant, mais ils se développent de leur manière. Alors, pour pouvoir faire la différence, je voudrais un peu savoir pourquoi donner un droit à un peuple, parce que à mon avis, tout le monde est quelque part. Hein. Voilà un peu.
D'accord, merci. Charles Kissimba, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Charles?
À mon avis, je pense que de la même façon que les pygmées cherchent à faire respecter leurs droits, il fallait qu'ils fassent aussi la même chose. Ensuite, ils ne sont pas marginalisés aujourd'hui. Ils se marginalisent eux-mêmes. Par le simple fait, ils préfèrent toujours habiter la forêt. Pour clore, s'ils veulent participer à la gestion de la chose publique, ils doivent se battre comme font les autres peuples. Et non à exiger à ce que les législateurs légifèrent leurs propres lois. Non, n'est-ce pas, nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi elle-même a un caractère universel et non partiel. Et les pygmées quittent dans l'insomnie de l'Antiquité. Je dis et je vous remercie, c'est Charles Salangueta.
Merci. Yannick, vous êtes à Manono. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je voulais juste réagir à cette préoccupation qui dit comment assurer la protection et des droits du peuple autochtone.
Oui.
Et je voulais juste dire à notre invité que ce qu'il a dit est vrai, parce que nous voyons dans tous les domaines, qu'ils soient sportifs, et religieux, politiques, nous ne trouvons aucun peuple autochtone qui travaille dans ces domaines. Maintenant, je voulais vous dire que, par exemple, les chrétiens sont parvenus jusqu'à dire que les peuples autochtones sont de la famille de Caïn qui a été maudite par Dieu, parce qu'il a dit que ton peuple n'aura pas de gagner ou ne se répandra pas sur la terre. Maintenant, je voulais dire juste que, par exemple, ici à Manono où nous sommes, il y avait eu un soulèvement de ces peuples autochtones qui ont envahi et ont brûlé à feu à sang notre territoire. Et jusque-là, eux-mêmes ont les complexes d'infériorité lorsqu'ils sont invités par une autorité politique pour la participation d'une compétition sportive, disons le football. Maintenant, lorsqu'ils viennent ici pour participer à cette compétition, ils se sentent eux-mêmes qu'ils sont inférieurs à nous qui sommes battus. Mais ce n'est pas ce que nous pensons, parce que par rapport à l'histoire, comme nous apprenons que ce peuple est très petit, ils se déconsidèrent eux-mêmes par rapport à nous. Voilà ce que je veux juste réagir et dire à notre invité, que pour cela, il faut que le gouvernement congolais fasse le tout pour construire des écoles qui pourront leur aider à apprendre pourvu qu'ils s'élargissent dans le monde, afin qu'ils aient aussi le complexe là de supériorité comme nous-mêmes. C'est ce que je voulais réagir, monsieur le journaliste.
Merci Yannick de Manono. Alors, monsieur Kapoupou, vous avez suivi les différentes réactions. Certains sont revenus sur le fait que le pygmée lui-même souffre d'un complexe d'infériorité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, je pense que, monsieur le journaliste, j'avais souligné ça. J'avais souligné ça parce que nous avons déjà intériorisé cette marginalisation qui devient comme une culture. Parce que des millénaires, pendant des millénaires, des siècles, nous souffrons de cette marginalisation. Maintenant, nous avons intronisé ça dans à l'intérieur. Ça devient comme culture, comme il vient de le dire. Mais les gens disent non, les pygmées ne veulent pas. Tout le monde le répète. Hein, ils veulent vivre tout simplement dans la forêt. Est-ce que moi aussi, je leur pose la question, et c'est ça que je vais informer l'opinion nationale, que ce n'est pas à dire que cette forêt-là, elle est bantoue. Si nous prenons la République démocratique du Congo, le pourcentage de la population dépendante de forêt et le pourcentage de la population urbaine, quel est le taux élevé? C'est le pourcentage de population rurale ou dépendante de la forêt, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un. De deux, c'est pour dire que c'est ça. Quand il a posé la question de... chaque tribu ici a son histoire, si vous suivez très bien. Mais il dit les origines. Tous les Bantous, les Nilotiques, les Soudanais, après la désertification du Sahara, c'est bien dit. Ils ont commencé à descendre, de chercher là où il y a encore la vie. Et c'est ainsi que tout le monde se trouve maintenant en Afrique centrale, précisément. Mais aucun livre, il peut me témoigner, que ce soit... Tous les ethnologues qui me suivent, les sociologues, les historiens, les anthropologues, qui me tracent l'origine des pygmées, qui me tracent ça. Vous trouverez, nous sommes comme des champignons. On pousse comme ça. Et personne qui me dira le contraire, que par exemple les pygmées sont venus avec le source du Nil, ils sont venus de ici, ça n'existe pas. Ça c'est un, c'est-à-dire pour définition, c'est pourquoi... Et nous les considérons, vous autres, donc les Bantous, les Nilotiques, les Soudanais, comme les allochtones, c'est ça le français.
Les allochtones.
Voilà. Donc, ceux qui sont là, mais ne sont pas vraiment de là. Oui. Et de ce que je vais informer l'opinion nationale, que ce n'est pas à dire que le pygmée nous occupions, je prends le cas de la RDC, les 2 385 km². Non. Non, ce n'est pas possible. Sinon, on devrait être aussi plus de 2 millions chaque mètre avec un autochtone.
Oui.
Mais il y avait vraiment des espaces qui étaient libres. Nous, on occupait tout simplement quelques endroits. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas partout. Mais quand ils sont arrivés, c'est ça que était le débat même au niveau international. Qui est autochtone et qui ne l'est pas en Afrique? Parce que tous les colonialistes sont venus, ils ont rencontré la population donc
les
africaine.
Oui,
sûr. Et c'est alors, ça la définition.
Certains disent que les pygmées ne veulent pas s'intégrer parmi les autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il faut aujourd'hui construire des écoles seulement uniquement pour le peuple autochtone, ou bien les enfants des peuples autochtones peuvent aussi aller dans les écoles où les autres étudient?
Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, comme je l'ai souligné, c'était la marginalisation là que nous avons intégrée. Nous avons intronisé ça, ça devient chez nous comme une culture. Mmh. Et c'est ainsi qu'ils disent que nous ne voulons pas étudier. Non. Bon, dites-moi aujourd'hui, combien de demandes, je viens de vous dire, nous avons des licenciés de tout cela. Avec les systèmes de la République démocratique du Congo, quelqu'un qui n'a pas un frère, aujourd'hui, pour avoir du boulot, pour avoir ceci, il faut avoir toujours quelque part là, être attaché.
Non, c'est pas la règle.
Mais c'est pas la règle.
Il y a des gens aujourd'hui qui trouvent du boulot sans...
Non, je ne disconviens pas, mais il n'y a pas de règle sans exception, voilà. Comme nous venons de le dire.
Donc c'est possible de trouver le boulot sans avoir un frère ou une soeur quelque part.
Ici, nous parlons de droit, monsieur le journaliste.
D'accord.
Quand on parle de droit... le droit, c'est pour tout le monde. Comme l'autre a souligné Charles, le droit est universel et impartial pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais est-ce que la loi est claire? Mais la mesure maintenant d'application de cela, C'est ce qui cause le problème. Mmh. Et c'est pour cela que si aujourd'hui nous commençons à se constituer en structure pour revendiquer ces droits, donc c'est vrai, là il y a nous tous, nous sommes des Congolais.
Votre organisation regroupe combien d'associations des autochtones?
Mon organisation est vraiment, c'était, je peux dire, c'est comme quand c'était le parti État, MPR. C'est-à-dire tout pygmée qui soit même fait partie, qui soit même dans le ventre, il fait partie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est ça notre, on appelle ça cinquième monde. C'est-à-dire nous nous retrouvons comment conscientiser même le bébé là, pour que qu'on contourne ce que nous venons de dire, tout ce que nous disons, marginalisation, exclusion, tout ça, il faudrait introduire maintenant que nous sommes des Congolais. Et ça, je le souligne avec marqué je ne sais pas quelle couleur, que nous sommes des Congolais à part entière, comme tous les autres Congolais. Et comme l'autre a dit, nous devons se battre. Et si aujourd'hui je suis à la radio Capi, c'est pour se battre pour que nos droits là, que nous sommes en train de revendiquer, qu'on puisse le prendre en compte. Voilà. Et
voilà, Yannick de Manon nous a parlé de, il dit que, les pygmées, ils souffrent de ces complexes d'infériorité. Et d'ailleurs, là-bas, dans les Tanganyika, on déplore souvent des affrontements sanglants entre les autochtones et les bantous, ce qui n'est pas une très très bonne chose, hein, d'ailleurs.
Oui, je pense que Yannick peut-être me connaît très bien. À part figure, parce que j'étais là, c'est moi qui suis le signataire de l'accord de paix en Tanganyika, c'est moi qui a engagé le peuple autochtone. Et je viens de là, il y a maintenant un mois. Et lui-même, il est témoin quand il dit que les autorités engagent, il se connaît. Je ne peux pas rappeler le passé. Et il connaît M. Mukadi fidèle, quel sort qu'il a reçu, et l'autochtone là, qu'on a tué devant les autorités. Il connaît très bien. J'étais à Manono, c'est pas la première fois.
Mais aujourd'hui, quand même, la tension a baissé.
Je viens de là. Calme. J'étais avec la commission, donc, au niveau de la présidence, pour aller faire le suivi de cet accord-là. Mm. Pour voir où est-ce que nous en sommes et tout ça. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, si aujourd'hui, cette journée aujourd'hui est dédiée, le thème principal, c'est migration et le mouvement de peuples autochtones. Ça, c'est le thème principal au niveau global, donc au niveau mondial. Oui. Au niveau de la RDC aujourd'hui, les thèmes que nous avons mis, c'est la migration, les mouvements et le déplacement des peuples autochtones dans les territoires en conflit. C'est ça les thèmes qu'on devrait débattre.
Aujourd'hui, voilà. Donc, là, dans les Tanganyika, par exemple, il faut penser à reconstruire les écoles. Il y a des cases qui ont été brûlées. Il faut penser à reconstruire. Ce n'est plus le temps de faire la guerre.
Non, tout juste, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis que je viens là avec une délégation de la présidente de la République pour essayer de voir le suivi. Où est-ce que nous en sommes? Parce que c'est vrai, comme Yannick a dit, toutes les écoles sont brûlées, les dispensaires sont brûlés, les maisons sont brûlées. Et tous, quand vous voyez même le chef de groupement qui est, je dirais, le représentant de la population, se trouve maintenant dans le cadre de déplacer. Moi, je plairai. Et tous les peuples autochtones, donc le pygmée de Tanganyika, sont dans des brousses. Voilà comment on a fait. Les bantous, dans des camps de déplacés internes. Les pygmées, leur refuge, c'est dans la forêt, comme vous venez de le dire. Voilà, c'est là qui signifie que, quand je dis nous sommes le cordon ombilical entre nous et la nature. Voilà, c'est ça.
Bien, on va accueillir Soupi Nyembo de Kalima. Etienne nous appelle de Kalimi. Soupi Nyembo, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tout le monde. J'ai un témoignage et une question. Je commence d'abord par le témoignage. Parce que ici chez nous, j'avais engagé l'une de ces gens-là, une fille de 18 ans, qui est pygmée. Mais quand elle vient à la maison, par exemple, je l'envoie à laisser les pondous ou dissomber. Quand elle vient à la maison, c'est tout le monde qui commence à rire, à dire n'importe quoi sur elle. Quand elle retourne, même les enfants commencent à me demander, est-ce que cette personne ici, elle est normale ou elle n'est pas normale? Bon, moi, je donne des conseils aux enfants. Non, elle est normale et tout ça, des conseils comme ça. Mais je passe maintenant à la question. Bon, je constate que pour moi, c'est un problème des hommes. parce que avec cet état et là dont ces gens ont beaucoup de déjà l'air de considérer et elles pensent que ces gens ne sont pas dignes de comme d'autres personnes et pourtant elles sont fortes parmi eux comme nous aussi. Il y en a qui sont forts et il y en a qui sont faibles. Merci beaucoup, j'ai dit.
Merci à Soupi Nyambo. Etienne, vous êtes à Calémie, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de la protection des droits des peuples autochtones. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, effectivement, j'aimerais ajouter sur ça. Je pense que les peuples lucidiens sont les premiers habitants du pays, mais je constate que ces peuples sont délaissés. Les peuples sont marginalisés, les peuples sont bafoués d'une manière générale. C'est pour ça que nous avons fait selon le gouvernement d'essayer quand même de mobiliser un moyen nécessaire, ou soit de prévoir un délai nécessaire pour ces peuples. Je vais parler sur les deux plans. Premièrement, sur le plan éducation, je vois que ces peuples sont bafoués. Combien, peut-être dans 100%, on pense qu'il y a seulement 1% de la population qui bénéficie sur le plan éducationnel. Et sur le plan aussi de la santé, les peuples aussi sont bafoués. On pense que...
Oui, Étienne, la communication n'est pas très très bonne. On vous écoute difficilement. Désolé. Jésus et la Mégie nous appellent de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, président Kapuku.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les droits des peuples autochtones?
Voilà, j'avais des petites questions là à poser à l'invité. Je l'ai entendu parler que ils sont les premiers citoyens. Sont congolais avec la lettre C en majuscule. Mais par contre, il se plaint que dans la Constitution, on ne parle pas du mot autochtone. Vous sous-entendez que ce sont eux-mêmes qui se font exclure. Or, toutes les lois de la Constitution parlent du peuple congolais en général. Pourquoi est-ce qu'il veut que les mots autochtones soient d'abord inscrits dans la Constitution? De deux, ils disent que c'est nous qui leur offrons la forêt comme habitat. Et qu'ils sont déjà un jour quittés la forêt de Kenon, nous voici, nous allons habiter Kinshasa, Lubumbashi, Bujuma et d'autres villes, et quiconque les a interdits de ne pas habiter dans ces villes ou pas. Et trois, lui, quand il a étudié jusqu'à ce niveau, comment est-ce qu'il a fait pour arriver jusqu'à ce niveau tant que les autres restent enfermés? C'est ça un peu mes questions que je voulais demander à l'invité.
Bien, merci. Kachai de Kanyoka, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute.
Merci beaucoup Monsieur Jody. Je suis intéressé par le sujet du jour, les droits des autochtones. Comment nous pouvons revendiquer ces droits? Premièrement Monsieur Jody, je vais vous dire que les autochtones ce ne sont pas seulement les Pygmées, mais quand nous voyons à Kinshasa là, les Bateke sont appelés des autochtones de Kinshasa. Ici à Kananga, par exemple, c'est les gens de la ceinture verte, on les appelle comme ça, les villages de la ceinture verte qui environnent la ville de Kananga, sont appelés des autochtones de la ville de Kananga, qui, du reste, ne sont pas même représentés dans les institutions provinciales, communales, urbaines, ainsi de suite. Moi qui vous parle, je fais partie de la ceinture verte, des autochtones. Mais il y a un problème dans le sens que nous n'avons pas de loi qui protège les autochtones au niveau national. Quand nous voyons, par exemple, la question relative à la jouissance des terres, des ancêtres, vous voyez certains villages qui sont tout autour de la ville. Dans ces villages-là, ce sont les autorités administratives, politico-administratives, qui octroient des terres à ceux qui y ont formulé la demande. Ils disent les autochtones ont seulement les droits de la jouissance et ils n'ont pas les droits d'exercice. C'est-à-dire ils ne peuvent pas avoir un quelconque droit d'exercice sur ces terres-là. Mais les chefs coutumiers sont en train de vendre ces terres-là. Ils peuvent se permettre de faire aussi de n'importe quoi. Maintenant, quand il y a un problème, on recourt à la justice et non à l'arbre à palabre. C'est pourquoi je voulais demander à l'invité. Comment nécessairement, non seulement penser à ceux qui sont dans la forêt, à ceux qui y habitent le long de la forêt, les pygmées entre parenthèses, mais les autochtones qui sont dans certaines villes. par exemple les Bateke de Kinshasa, les Benamou Kipari de Kananga, ainsi de suite partout là. Comment ces gens-là peuvent se sentir à l'aise dans leurs droits, eu égard à tout ce que s'est fait en République démocratique du Congo. Deuxièmement,
oui.
Est-ce qu'on peut avoir des syndicats, par exemple des Pygmées, là, nos frères Pygmées, peuvent avoir aussi des syndicats parce qu'ils avaient, une fois je me rappelle, ils avaient formulé la demande pour qu'ils soient représentés dans les institutions nationales, provinciales, municipales et consorts. Mais comment ils peuvent faire parvenir ce message-là dès lors que les autorités ne cherchent pas à organiser un dialogue pour la cohésion nationale? Merci beaucoup.
Bien. Monsieur Kapoufou, vous avez la parole.
Oui, je commence par Kachai, qui appelle la partie de Kananga.
De Kanyoka plutôt.
Et Kanyoka, c'est dans le Kasai. Kasai central. C'est-à-dire, ce qu'il vient de dire là, voilà. Il adhère à ce que je dis. Mais le problème, c'est quoi? Vous venez de souligner vous-même que ce sont le chef, donc le chef traditionnel ou le chef de terre, qui ont péri. C'est ce que nous sommes en train de susciter, donc la culture. La culture africaine, la culture traditionnelle, qui est rejetée parce que l'identité de quelqu'un dépend de son appartenance à une portion de terre. C'est ça l'identité de quelqu'un. Si aujourd'hui, tout ce que vous venez de dire, parce que vous êtes identifié à cette portion de terre, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi, bon, entre guillemets, vous pouvez parler de syndicats. Pour nous, nous considérons nos mouvements, donc nos associations, comme des syndicats, et dont vous pouvez s'adhérer. Mais le fait que vous autres, vous ignorez, en disant que vous appartenez, quand vous parlez, par exemple, vous êtes autochtone, Mouyaka, tu commences toi-même... Mbokatier, tu commences à dire non, pourquoi tu m'injuries? Voilà, ça c'est aussi c'est un problème. Donc là vous vous ignorez vous-même. Or nous le Pygmée, ce que nous sommes en train de revendiquer, c'est pour tout ce que vous venez de dire, qu'on ne passe pas au-dessus pour vendre nos forêts, comme je viens de le dire, qui sont devenues maintenant pour les exploitants forestiers, des carrés miniers, des hydrocarbures. Et nous restons dans le vide. Maintenant, qu'est-ce que nous devenons? Comme j'avais dit, nous devenons comme de réfugiés dans notre propre terre. Nous devenons comme des déplacés parce que on vous déplace, vous n'avez plus accès des jouissances, même ce que vous venez de dire, de pénétrer par exemple dans une concession forestière, durant tous les contrats, donc de la durée du contrat des concessions qui est de 25 ans en République démocratique du Congo d'après la loi. Vous voyez, tout ça c'est ce que nous sommes en train maintenant de voir comment on peut faire ça. Pour votre information, c'est pour cela que nous vous invitons. Et nous sommes avec le chef coutumier, avec la nouvelle politique foncière en cours, la réforme foncière en cours, qu'on se mette ensemble maintenant pour présenter tous ces cas-là. Comment gérer dans l'avenir que le chef coutumier ou le chef de terre ne commence pas à vendre des portions de terre qui est notre appartenance, qui
on
est notre...
On vous associe aussi dans ces discussions-là.
Oui, non, c'est ça que je suis en train de répondre. Ce n'est pas à dire qu'on m'a appelé, M. Kapoufou, viens. Non, nous avons bousculé pour que nous soyons là.
D'accord.
Et ça serait un. Et pour Jésus, ce qu'il a dit, et je viens de le répondre, c'est pour dire que nous devons faire vraiment avoir des garde-fous. Que nos forêts et tout ce que nous possédons comme terre, que nous les garantissons. C'est ainsi que nous sommes dans le processus de sécurisation. Et pour faire la sécurisation de nos terres et de nos forêts, il faut quand même qu'il y ait des connaissances de la loi d'abord du pays et de la loi et des instruments internationaux qui nous garantissent les droits aux fonciers, les droits à la santé, les droits à tout ce que nous avons. Voilà un peu nous le chemin que nous avons tracé pour essayer de consolider ce que nous avons et d'être maintenant, comme on dit, c'est nous-mêmes, on est en train de trouver des complexes. Maintenant, ce n'est plus complexe d'infériorité. Maintenant, ça devient complexe de supériorité. Parce que les autres commencent à avoir peur de nous.
Alors, et Jésus a dit tout à l'heure que vous avez étudié.
Oui.
Vous vous êtes battu.
Oui.
Pour atteindre les niveaux que vous avez aujourd'hui. Et pourquoi les autres aussi ne se battent pas, n'arrivent pas à se battre comme vous?
Non, ce n'est pas...
Pour étudier et arriver à émerger.
Non, monsieur le journaliste, nous nous battons. Parce que je viens de vous dire que... Aujourd'hui, si vous voyez à l'échiquier national, nous avons maintenant des organisations des peuples autochtones dirigées par les peuples autochtones. comme le mouvement. Mmh. Et c'est pour ça que je peux lui rappeler la proposition de la loi qu'on a soumis à l'Assemblée, dont jusqu'à présent on ne sait pas là où ça se trouve, vous voyez, parce que c'était pour lui, pour revendiquer tous nos droits que nous venons d'énumérer tout à l'heure là. Mmh. Aujourd'hui, pour les avancées, quand je rentre maintenant pour informer les amis à ce qu'ils ont dit, nous avons des édits. Les édits, ce sont des lois provinciales, n'est-ce pas? Mmh. Et nous, notre approche, nous disons maintenant, comme au niveau national, on a rejeté notre proposition de loi qui était présentée par la coalition des députés, des majorités de l'opposition, mais cette loi, parce que c'était la loi pour la promotion et la protection des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo, ça fait un débat jusqu'à ce que ça n'a pas même arrivé à cela. Nous avons contourné comme démarche. Nous avons dit, nous commençons maintenant avec les provinces. Et c'est ainsi, à l'heure où je vous parle, nous avons déjà 3 édits. Nous avons l'édit de Sankourou qui prend en considération donc la loi propre uniquement pour les peuples autochtones de Sankourou. Nous avons l'édit de Maïndombe, la province de Maïndombe, uniquement l'édit pour ça. Nous avons l'édit pour l'Équateur. Vous voyez, nous commençons maintenant à dire
petit
que
à petit, il y a des avancées.
Et tout ce qui s'est fait là-bas, c'est pas à dire que c'est M. Kapoupou qui descend partout là-bas, mais ce sont maintenant les peuples autochtones, les intellectuels qui sont là, qui accompagnent la communauté en fait d'arriver à ce stade-là.
Et même certains bantous aussi qui soutiennent votre lutte,
je dis,
qui vous accompagnent.
Nous avons des catégories de mouvements, dans, comme l'a dit syndicat ou quoi. Donc, il y a les ONG qui accompagnent les peuples autochtones, nous les appelons les organisations accompagnatrices qui militent en faveur, qui nous accompagnent, qui nous appuient dans la lutte. Et nous avons les organisations propres aux peuples autochtones telles que notre réseau.
D'accord. Monsieur Kapoupou Diwa, président de la Ligue nationale des associations autochtones pygmées du Congo, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci, monsieur.